Bonjour, c'est Sophie Laurence. Je vous invite à partager un moment avec mes invités, les poètes d'hier et d'aujourd'hui. Cette nouvelle émission intitulée Les poèmes du lundi aura lieu chaque premier lundi du mois de 17h à 17h50 sur fréquence Mistral 99.3.
Eh bien, bienvenue à tous. Si vous nous retrouvez sur Fréquence Mistral, il est 17h sur 99.3 et c'est bien sûr l'émission Les Poèmes du Lundi, une émission proposée et animée par Sophie Laurence. Sophie Laurence, bonsoir.
Bonsoir.
Aujourd'hui, vous avez choisi Arthur Rimbaud pour nous en parler et qu'on fasse davantage connaissance avec lui, bien qu'il soit assez connu, mais vous allez nous en apprendre toujours plus. Et puis, vous souhaitez nous parler d'abord de poésie.
Oui, je voudrais dire quelques mots sur ce qu'on appelle la poésie, parce qu'on pourrait se dire, mais c'est quoi la poésie ?
Alors, c'est quoi ?
Ben, historiquement, enfin, d'abord, la poésie, c'est le premier langage et la première mémoire. C'est un support conventionnel de tout ce que les hommes ne doivent pas oublier. Donc au début, la poésie n'est pas née d'elle-même. Ses origines, les formules rituelles, la généalogie des dieux ou des héros, des encyclopédies orales, une recette, une magique presque, on peut dire. Mais la finalité n'est pas esthétique, mais magique, historique, juridique, didactique, mémoire orale. C'est un système mnémotechnique pour ne pas oublier. Donc, peu à peu, il a été inventé, la rime, le rythme, toutes les formes poétiques. Donc, la poésie est d'abord une mémoire. Elle préexiste à l'écriture et allant vers la parole. Alors, c'est Arthur Rimbaud aujourd'hui notre invité, grand poète et grand, on peut dire, enfant magnifique. Arthur Rimbaud est né à Charleville en 1854. C'était à l'époque la France impériale, et déjà une guerre dans cette France impériale, la guerre de Crimée, 90 000 morts. Pour l'époque, c'était quelque chose. Alors, un petit poème qui s'appelle « Le mal ». Tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent, tout le jour par l'infini du ciel bleu, qu'écarlate, ouverte près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu. Tandis qu'une folie épouvantable broie et fait de ces 100 milliers d'hommes un tas fumant, pauvres morts dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, nature. Oh, toi qui fis ces hommes saintement. Il est un dieu qui rit aux nappes damassées des autels, à l'encens, au grand calice d'or, qui dans le bercement des hosannas s'endort et se réveille quand des mères ramassées dans l'angoisse et pleurant sous leur vieux bonnet noir lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir. Voilà, en quelques mots, ça fait penser à ce qu'on entend aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qui se passe aujourd'hui. Tous ces morts tous les jours, ça va très, très, ça augmente tous les jours, ça revient, on n'en finit pas. On n'en finit pas. Donc, pour en venir à la naissance de Rimbaud, il disait « Nous ne sommes pas au monde ». Assez vite, il a dit ça. C'est fort comme phrase. « Nous ne sommes pas au monde ». On peut le dire aujourd'hui, « Nous ne sommes pas au monde », enfin, à mon avis. Alors, M. Rimbaud, père, éloigné, c'était un militaire, puis absent définitivement, Mme Rimbaud, mère despotique, la Moser, comme l'appelait son fils. Elle avait donc 4 enfants, 2 frères, 2 sœurs, Arthur, Frédéric et Vitalie, Isabelle. Alors, par exemple, un portrait comme ça, très joli. Quand ils allaient dans la rue faire les courses, les 4 enfants, 2 par 2, 2 garçons, 2 filles, la mère derrière. Voilà, on se tenait par la main et tout le monde, ça faisait rire les gens, les passants, quoi, parce qu'on la connaissait avec ses 4 enfants. Rimbaud appelait sa mère la bouche d'ombre. Elle est toujours habillée de noir, alors qu'elle n'avait pas de raison d'être, elle n'était pas veuve. Enfin. Donc, elle, c'était l'ordre. La famille, l'école, la religion. D'ailleurs, nous allons entendre Léo Ferré, qui chante le poète de 7 ans. Et écoutez bien ce qu'il dit.
Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour, il suait d'obéissance, très intelligent, pourtant d'éthique noire, quelques traits semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, en passant, il tirait la langue, les 2 poings à laine, et dans ses yeux fermés voyait les poings. Une porte s'ouvrait sur le soir, à la lampe on le voyait là-haut, qui râlait sur la rampe sous un golfe de jour, pendant du toit, l'été surtout. Vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là tranquille et livrant ses narines. Quand lavé des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison en hiver s'illuminait, gisant au pied d'un mur enterré dans la Marne, et pour des visions écrasant soleil d'Arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers, qui, chétifs, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs de boue, sous des habits puant la foire et tout vieillot, conversaient avec la douceur des idiots. Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement, c'était bon, elle avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravit. Forêt, soleil, rive, savane, il cédait de journaux illustrés où rouge il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun folle en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos en secouant ses tresses et qu'il était sous elle. Il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon, et par elle meurtrie des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Il craignait les blafards dimanches de décembre, où, pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vers chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes, au soir fauve, noir, en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg où les crieurs, en trois roulements de tambour, font autour des édits rire et gronder les foules. Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles lumineuses, parfums saints, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue, aux persiennes closes, au thé bleu, âcrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité. Plein de lourds ciels au creux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, déroutes et pitiés, tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas seul et couché sur des pièces de toile écrues. Et pressentant violemment,
superbe. Oui. La religion disait que c'était comme un leurre. Et il dit: Christ! Oh, Christ! Éternel voleur des énergies, Dieu qui pour 2000 ans voit à ta pâleur, cloué au sol de honte et ses fatalgiques, ou renverser les fronts des femmes de douleur. Mais nécessité de croire à quelque chose. Il voit dans le courant idéaliste de son temps, conscient de la réalité rugueuse à étreindre mieux et rapidement les limites et les dangers d'une telle tendance dans la vie, comme dans la littérature. Voilà cette fameuse réalité qui n'a jamais quitté, qui est dans toute sa poésie. Elle est présente, on l'a entendu là. Mmh. Il dépasse l'esprit de son temps à 12 ans. Bon et excellent élève, enfant doué, que les autres jalousent et critiquent. Il est malheureux d'être un génie impatient, voué à la solitude et au silence. Mais il écrit. Avec Isambard, un jeune maître à qui il peut se confier, il fait le lien entre l'adolescent et le monde littéraire, dont Victor Hugo en premier. Madame Rimbaud lui écrit à ce maître, Monsieur Isambard: je ne saurais approuver, par exemple, la lecture du livre que vous lui avez donné il y a quelques jours, Les Misérables de Victor Hugo. Vous devez savoir mieux que moi, monsieur le professeur, qu'il faut beaucoup de soin dans le choix des livres qu'on veut mettre sous les yeux des enfants. Il serait dangereux de lui permettre de pareilles lectures. Ainsi de suite, voilà. Voilà la surveillance qu'il avait, donc, parce qu'il a été fasciné par Les Misérables, il a dit « c'est un grand poème ». Et c'est vrai. Rimbaud accueille tous les poètes de son temps, Écart, Verlaine, Theuriet, Baudelaire. Les poètes sont frères. C'est le chemin de la liberté. Ah, ma ville natale, disait-il, est supérieurement idiote entre les petites villes de province, parce qu'elle voit pérégriner dans les rues, dans ses rues, 200 à 300 piou-piou. Cette benoîte population gesticule. Moi, j'aime mieux la voir assise. Les assises.
Noir de loupe. grêlés, les yeux cerclés de bagues vertes, leurs doigts boulus crispés à leurs fémurs, le sein siput plaqué de hargnosité vague comme l'effloraison lépreuse des vieux murs. Ils ont greffé dans des amours épileptiques leurs fantasques ossatures aux grands squelettes noirs de leurs chaises, leurs pieds aux barreaux rachitiques s'entrelacent pour les matins et pour les soirs. Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges, sentant les soleils vifs percaliser leur peau, ou les yeux à la vitre où se fanent les neiges, tremblant du tremblement douloureux du crapaud. Et les sièges leur ont des bontés, culottés de brun, la paille cède aux angles de leurs reins, l'âme des vieux soleils s'allume en mailloté dans ces tresses d'épis où fermentaient les grains. Et les assis, genoux aux dents, vers pianiste, les dix doigts sous leur siège aux rumeurs de tambour, s'écoutent clapoter des barcaroles tristes, et leurs caboches vont dans des roulis d'amour. Oh, ne les faites pas lever, c'est le naufrage, ils surgissent, grondant comme des chats giflés, ouvrant lentement leurs omoplates au rage, tous leurs pantalons bouffent à leurs reins pour souffler. Et vous les écoutez, cognant leurs têtes chauves aux murs sombres, plaquant et plaquant leurs pieds tors, et leurs boutons d'habits sont des prunelles fauves qui vous accrochent l'œil au fond des corridors. Puis ils ont une main invisible qui tue, au retour, leur regard filtre ce venin noir qui charge l'œil souffrant de la chienne battue, et vous suez, pris dans un atroce entonnoir. Rassis les poings noyés dans des manchettes sales, ils songent à ceux-là qui les ont fait lever, et de l'aurore au soir, des grappes d'amygdale sous leur menton chétif s'agitent à crever. Quand l'austère sommeil a baissé leur visière, ils rêvent sur leurs bras de sièges fécondés, de vrais petits amours, de chaises sans lisière, par lesquelles de fiers bureaux seront bordés. Des fleurs d'encre crachant des pollens en virgule les bercent le long des calices accroupis, tels qu'au fil des glaïeuls le vol des libellules, et leurs membres s'agacent à des barbes d'épis.
C'était Les Assis, chanté par Léo Ferré. Et on retrouve Sophie Laurence pour l'émission Les Poèmes du Lundi.
Alors, les polices l'empêchent d'exercer sa liberté libre. Sa vie durant, il trouvait les auberges vides, ah, pas toujours, mais souvent, des châteaux à vendre, des églises fermées. Et c'était le désir. Quand il avait faim et soif, il y avait quelqu'un qui le chassait. Donc il n'y avait pas personne. Ses courses et ses voyages le font exister au monde. Et là, on va encore entendre à nouveau Léo Ferré avec Ma Bohème.
Je m'en allais les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel muse et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou, petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course. Terrible, mon auberge était à la grande ours, mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre, je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Où rimant au milieu des ombres fantastiques, comme délire, je tirais les élastiques. de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur.
Alors je prends le relais de Léo Ferré avec Sensation, un petit poème. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Alors, bien sûr, nous arrivons à une période où, à nouveau, le poète est confronté à la guerre. Et là, il fait une rencontre dans la nature aussi. Ça s'appelle le dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Poésie, c'est aussi le rythme, c'est aussi la cadence, c'est ça aussi, c'est pas de l'image, c'est de la parole, tout le temps. Donc, à l'époque, c'est déjà une coupure irréversible pour lui. Alors donc, il est accueilli, c'est un monde nouveau en fait, c'est 1871, mais enfin, on y est pas encore vraiment. L'adolescent accueille un peu au hasard des bribes de théorie socialiste. Il est sensible. Lui, la sociale, est intéressé par la plus importante des questions posées à son temps, l'amour, l'avenir de la société. Il écrit des articles au journal de Douai. Il s'intéresse de très près dans le Libéral du Nord aux prochaines élections. Sa sympathie ne va pas du tout à la liste des conciliations, qu'il appelle liste des malins. Les élections donnèrent une majorité conservatrice. Il annonce les temps à venir et le rôle dévolu au poète qui prendra le sanglot des infâmes, la haine des forçats, la clameur des maudits. Les Prussiens sont dans Paris. Concerts, bals, tout le monde, c'est la fête, bientôt tout le monde. Enfin, le Paris impérial renaît. Société, tout est rétabli, les orgues pleurent, leur ancien râle aux anciens lupanards, et les gaz en délire, aux murailles rougies flambent sinistrement vers les azurs blafards. Mais le poète prendra le sanglot des infâmes. Dans le cri du peuple, Jules Vallès salue la proclamation de la Commune. Quelle journée ! Oh ! Grand Paris, lâche que nous étions, nous parlions déjà de te quitter et nous éloigner de tes faubourgs qu'on croyait morts. Revenu dans les Ardennes, Rimbaud accueille avec passion le soulèvement de Paris, la Commune. C'est l'expression de sa propre révolte. Fils des désespérés, tu seras un homme libre. Il refuse totalement la société. Je m'en crapule. Travailler maintenant ? Jamais ! Jamais ! Je suis en grève. Il songe à bouleverser le poème. La poésie ne rythmera plus l'action. Elle sera en avant. Alors il a écrit un poème sur une femme. Sur Jeanne-Marie. Ça évoque justement le juillet 1871. Jeanne-Marie a les mains fortes, mains sombres que les tétanas, mains pâles comme des mains mortes. Sont-ce des mains de Juana ? Oui, ont-elles pris les crèmes brunes sur les mains de volupté ? Ont-elles trempé dans des lunes aux étangs de sérénité ? Sur les pieds ardents des madones, ont-elles fané des fleurs d'or ? C'est le sang noir des belladones qui dans leurs paumes éclate et dort. Mains chasseresses des diptères dont bombinent les bleuisons aurorales vers les nectars. Mains des canteuses de poison. Oh, quel rêve les a saisis dans les pendiculations. Un rêve inouï des Asies, des Kangavars et des Sillons. Ses mains n'ont pas vendu d'orange, ni bruni sur les pieds des dieux. Ses mains n'ont pas lavé les langes des lourds petits enfants sans yeux. Ce ne sont pas mains de cousines ni d'ouvrières au gros front que brûle au fond puant l'usine. Un soleil ivre de goudron. Ce sont des ployeuses d'échine, des mains qui ne font jamais mal, plus fatales que des machines, plus fortes que tout un cheval. Remuant comme des fournaises et secouant tous ces frissons, leur chair chante des Marseillaises et jamais des Eléissones. Ça serrerait vos coups, ô femmes mauvaises, ça broierait vos mains, femmes nobles, aux mains infâmes, pleines de blanc et de carmin. L'éclat de ces mains amoureuses tourne le crâne des brebis. Dans leurs phalanges savoureuses, le grand soleil met un rubis. Une tache de populace, les bruits comme un saint d'hier, le dos de ses mains et la place qu'on baise, tout révolté, fier. Elles ont pâli, merveilleuses, au grand soleil d'amour chargé sur le bronze des mitrailleuses, à travers Paris insurgé. Ah ! Quelquefois, aux mains sacrées, à vos poings, mains où tremblent, nos lèvres jamais désenivrées, crie une chaîne aux clairs anneaux. Et c'est un soubresaut étrange dans nos êtres quand quelquefois on veut vous déhaler main d'ange en vous faisant saigner les doigts. C'est pour ça que ce poème me fait penser à sa mère, parce qu'elle était inflexible, mais elle faisait pas mal. Elle faisait pas mal, justement, et cette espèce de force qu'avait cette femme pour que ses enfants ne déraillent pas, parce que comme elle était très faible, en fait, elle voulait absolument que ça marche, quoi, que ça. Donc, il a toujours eu cette femme. Et moi, je pense que Jeanne-Marie, il y a aussi un jeu de mots, peut-être, je ne sais pas lesquels, mais ça lui est très proche. Voilà, donc c'est... Enfin, moi, c'est ce que je ressens, hein, c'est très... Donc.
Vous êtes toujours sur Fréquence Mistral 99.3. Sophie Laurence, voilà. Sophie Laurence qui anime et prépare cette émission Les poèmes du lundi, chaque premier lundi
avec Rimbaud.
Du mois, voilà.
Donc voilà, donc après il revient à Paris. Définitivement. Il rencontre deux vrais poètes, Verlaine et Charles Cros, puis c'est Mallarmé, ensuite Germain Nouveau, Richepin, enfin beaucoup, face à la nouvelle école, qui était un milieu d'écœurance, contre un milieu d'écœurance générale, la nouvelle école, et puis la vieillerie poétique. Une philosophie, un art de vivre naît, un anarchisme littéraire qui s'est appelé Zut. Les poèmes zutiques. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est assez amusant, quoi. C'est le ballet, oui, ce qu'il est mon ballet. Alors il a écrit un poème sur le ballet, parce qu'il était très sensible à la réalité des choses. Il fait penser des fois, ça me fait penser à Francis Ponge par moment, quoi. Je ne dis pas que Francis Ponge, c'est un nouveau Rimbaud, mais quand même, il y a quelque chose qui ressemble. Voilà, le ballet. C'est un humble ballet de chien-dent, trop dur pour une chambre ou pour la peinture d'un mur. L'usage en est navrant et ne vaut pas qu'on rit. Racine prise à quelque ancienne prairie, son crin inerte séché. Et son manche a blanchi. Tel un bois d'île à la canicule rougie, la cordelette semble une tresse gelée. J'aime de cet objet la saveur désolée, et j'en voudrais laver tes larges bords de lait, ô lune où l'esprit de nos sœurs mortes se plaît. Il veut balayer la lune avec son balai. Son ballet de chien-dent. J'ai jamais vu un ballet de chien-dent. C'est pas du chien-dent, les ballets qu'on trouve. Alors, les ballets de saule ou les ballets de branches. Donc voilà, donc c'est... Alors évidemment, dans cette moment zutique, ça n'a pas duré très longtemps. C'était plutôt... un moment comme ça, de liberté, de... Alors, il y a des poèmes complètement zinzin, quoi, très drôle. Donc, ce qu'il voulait, lui, c'est rapatrier l'homme dans l'être, le rendre à l'unité du début des temps. Quel retour. Établir la langue universelle, en elle, une nouvelle raison. Mystérieux pouvoir dans la parole. Deux pôles, la réalité objective et le langage. Il faudra accepter les pires souffrances, l'écartèlement de la personne, cesser d'être l'individu inventé pour le christianisme, prison où végète la vie. Alors il a écrit un grand texte qui s'appelle « Une saison en enfer », dont je vais vous donner un petit extrait. Voilà. Parce que c'est un texte très fort et il prendrait toute l'émission. Donc, Maintenant, je suis maudit. J'ai horreur de la patrie. Le meilleur, c'est un sommeil bien ivre sur la grève. On ne part pas. Reprenons les chemins d'ici. Chargé de mon vice. Le vice qui a poussé ses racines de souffrance à mon côté, dès l'âge de raison, qui monte au ciel, me bat, me renverse, me traîne. La dernière innocence et la dernière timidité, c'est dit. Ne pas porter au monde mes dégoûts et mes trahisons. Allons, la marche, le fardeau, le désert, l'ennui et la colère. À qui me louer? Quelle bête faut-il adorer? Quelle sainte image attaque-t-on? Quel cœur briserai-je? Quel mensonge dois-je tenir? Dans quel sang marcher? Oh, plutôt se garder de la justice, la vie dure, l'abrutissement simple, soulever le poing desséché, le couvercle du cercueil, s'asseoir, s'étouffer. Ainsi, point de vieillesse, ni de danger. La terreur n'est pas française. Ah, ah, je suis tellement délaissé que j'offre à n'importe quelle divine image des élans vers la perfection. Oh, mon abnégation, oh, ma charité merveilleuse, ici-bas, des profondeurs dominées. Suis-je bête? Puis ça continue comme ça. Mais c'est très intéressant parce qu'on voit apparaître sa fin. On voit vraiment que c'est insupportable, quoi. Retrouver, rapatrier l'homme dans son être. Voilà ce qu'il disait, hein? Oui, les pires souffrances. Il dit, je travaille à me rendre voyant. Vous ne me comprendrez pas du tout. Et je ne saurais presque pas vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Il faut être fort, être né poète. Et je me suis reconnu poète. Je est un autre. Alors dans ce je est un autre, il y a un voyage avec un bateau ivre. Le bateau ivre. Le bateau ivre, c'est un poème très important qui a été énormément étudié. J'ai assisté une fois à la Sorbonne à la soutenance de thèse sur le bateau ivre par un type qui s'appelle, un homme formidable, qui s'appelle Étiamble. Je ne sais pas s'il est vivant ou pas vivant, je ne sais rien, mais pour moi, il est vivant. Il a dit des choses extraordinaires sur le bateau ivre, ça m'a beaucoup impressionné. Alors, je me suis mis à étudier ce bateau ivre que je ne reste, qui m'obsède beaucoup. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand, avec mes haleurs, on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus. Et les péninsules des marées n'ont pas subi au hubou plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes d'inuit, sans regretter l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleu et de vomissure me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescents, dévorant les azurs verts aux flottaisons blêmes et ravis, un noyer pensif parfois décent, où, teignant tout à coup l'ébluité des lyres et rythme lent sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crevant en éclairs et les trombes et les ressacs et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas, taché d'horreur mystique, illuminant de longs figements violets, pareils à des acteurs de drames très antiques, les flots roulant au loin leurs frissons de volets. J'ai rêvé la nuit, verte aux neiges éblouies, baisers montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèvres inouïes. Et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. J'ai suivi des mois pleins, pareils aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peau d'homme, des arcs en ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses ou pourris dans les joncs tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses, et des lointains vers les gouffres cataractants. Glaciers, soleil d'argent, flots nacreux, cieux de braise, échouages hideux au fond des golfes bruns où les serpents géants dévoraient des punaises, choix, des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades et d'ineffables vents m'ont hélé par instants. Parfois, martyr lassé d'épaules et des zones, la mer dont le sanglot faisait son roulis doux, montaient vers moi ces fleurs d'ombre aux ventouses jaunes, et je restais ainsi qu'une femme à genoux. Presque île, ballottant sur mes bords les querelles et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds, et je voguais. Lorsqu'à travers mes lits un frêle des noyers descendait dormir à reculons. Oh, moi, bateau perdu sous les cheveux d'aisance, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi, dont les moniteurs et les voiliers des anses n'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau. Libre, fumant, monté de brume violette, moi qui trouvais le ciel rougeoyant comme un mur, qui porte confiture exquise aux bons poètes, des lichens de soleil et des morves d'azur, qui courait taché de lunules électriques, planète folle escortée des hippocampes noirs quand les juillets faisaient crouler à coups de trique les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs, moi qui tremblais sentant geindre à 50 lieues le rude des bémots et des malstroms épais, fileur éternel des immobilités bleues. Je regrette l'Europe aux anciens parapets. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur? Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes. Toute lune est atroce et tout soleil amer. L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, que ma quille éclate! Oh, que j'aille à la mer! Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide où vers le crépuscule embaumé un enfant accroupi plein de tristesse lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus peigner de vos langueurs aux lames, enlever leur sillage aux poteaux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. Voilà l'épuisement. Épuisement, pour te dire, total. Et il a dit, il a écrit, j'ai brassé mon sang, mon devoir m'est remis. Il ne faut même plus songer à cela, je suis réellement d'outre-tombe. Oh, solitude, solitude. Entendre, faire entendre, la solitude des multitudes où le silence hurleur. Toujours l'enfant illuminé. Alors, bien sûr, Rimbaud fugue tout le temps. Il part pour Paris, revient, retourne. Et il retourne à la maison à pied parce qu'il était complètement fauché. Il avait plus, d'ailleurs, il n'avait jamais d'argent. Jamais. Donc, il avait un peu un soutien comme ça. Donc, invité par Verlaine, chez lui, dans sa famille, où il y avait sa femme, son premier enfant, son fils, tout ça, ça ne marche pas très bien parce qu'il se met à boire. Donc, elle se fâche et elle ne peut plus supporter. Donc, elle se fâche de leur Vivaldi, de leur beuverie. Vivaldi, bien sûr, lui aussi, il buvait pas mal. Mais je ne sais pas pourquoi je parle de Vivaldi maintenant. Et il y avait des scènes violentes du couple qui se disputaient à propos de ce fameux Rimbaud. Donc il revient à Charleville. Verlaine finit par abandonner sa femme et son fils. Avec Rimbaud, ils s'en vont en Belgique, à Londres. Verlaine entretient son ami. Ils retournent à Charleville tous les deux, accueillis par la mère, qui n'était pas du tout choquée. Londres. Enfin, à un moment donné, ils se disputent dans leur violence, ils se boivent, ils se droguent, enfin, ils ont fait n'importe quoi. Enfin, Verlaine blesse Rimbaud au poignet. Donc, Rimbaud est expulsé, il retourne à Roche, enfin, dans sa famille, près de de Charleville. Et puis Verlaine, bah, il va repartir chez lui, ou je sais pas ce qu'il va devenir, parce que lui, il buvait pas mal aussi. D'ailleurs, c'est lui qui buvait plus que Rimbaud. Rimbaud n'était pas alcoolique, mais alors Verlaine, oui, il était. Donc Paris, alors il est allé à Paris, en Angleterre, il est retourné à Charleville, et rompt définitivement avec Verlaine, et il va vers la Suisse, l'Italie, il est encore rapatrié à Charleville parce qu'il n'a plus de quoi vivre, et il va à Hambourg, il devient interprète, rapatrié encore à Charleville, Danemark, Scandinavie, Italie, Charleville. Il n'arrête pas de revenir dans cet endroit qu'il n'aime pas du tout, qu'il a beaucoup fait souffrir. Enfin, bon, il part à nouveau, il repart, les Vosges, la Suisse, Lugano, Gênes, il s'embarque pour Alexandrie. Là, c'est pour toujours. Chypre. Ah non, il revient dans sa famille, non. Ah non, il revient. Après, il retourne et il va à Aden, au Harar, et il commence à trafiquer des armes, des pots, du café, du musc. Et il dit que, bon, c'est fini, les poètes seront... Alors là, il a écrit un truc, mais avant de partir. Les poètes, je ne sais pas quand est-ce qu'il a écrit ça, mais il dit, la poésie ne rythme plus l'action, elle sera en avant. Les poètes seront, quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l'homme jusqu'ici abominable lui ayant donné son renvoi, elle sera poète elle aussi. La femme trouvera de l'inconnu. C'est magnifique, ça. Voilà, il a écrit ça. Et ça fait plaisir. Donc, on va écouter Léo Ferré dans Les Corbeaux.
Seigneur, quand froide est la prairie, quand dans les hameaux abattus, les longs angélus se sont tus sur la nature des fleuries. Faites s'abattre des grands cieux les chers corbeaux délicieux, les chers corbeaux délicieux. Armée étrange aux cris sévères, les vents froids attaquent vos nids, vous le long des fleuves jaunis, sur les routes aux vieux calvaires, sur les fossés, sur les trous, dispersez-vous, ralliez-vous, dispersez-vous, ralliez-vous. Sur les champs de France, où dorment des morts d'avant-hier, tournoyer n'est-ce pas l'hiver, pour que chaque passant repense. Sois donc le crieur du devoir, ô notre funèbre oiseau noir, ô notre funèbre oiseau noir. Mais saint du ciel en haut du chêne m'a perdu dans le soir charmé. Laissez les fauvettes de mai pour ceux qu'au fond du bois enchaîne, dans l'herbe d'où l'on ne peut fuir, la défaite sans avenir, la défaite sans avenir.
Eh bien voilà, notre émission ne va pas tarder à se terminer, mais on va terminer, conclure.
Après la foudre, j'appelle ça après la foudre, c'est lui qui parle de la foudre, comme s'il avait été foudroyé. Il a cessé d'écrire et qu'on brûle ses poèmes. Pour lui, ça n'avait plus aucun intérêt. Plus aucun intérêt. On dirait même du dégoût, une sorte de rejet profond. Et il est devenu, il a même à un moment donné, il s'est fait mercenaire. Et donc, il s'était engagé, et puis après, il a carrément déserté. Ça, le désert, il connaît. Hein. Donc, dans son trafic, dans le désert, il est dévoré par le désert. je dis comme ça, désert dans son angoisse à Marseille, son agonie à Marseille. Il avait des grandes douleurs dans la cuisse et le genou et il avait une maladie grave en fait qui n'a pas été bien soignée. Donc il souffrait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il avait un cancer. Donc il va encore à Charleville et il a tellement mal qu'il veut redescendre à Marseille pour avoir du soleil parce qu'à Charleville, le soleil est plutôt rare. Donc il retourne à Marseille avec sa sœur Isabelle et là, il va mourir. Il va mourir à 37 ans. Et chose curieuse, il meurt un peu comme Van Gogh qui avait aussi 37 ans, qui est mort un an avant, en 90. C'est deux morts qui sont assez proches l'une de l'autre. Bon, lui, il s'est suicidé, mais on peut dire que c'était un peu pareil pour Rimbaud. C'était, voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a à dire. Sa mort a été très douloureuse, très grande douleur, parce que là-bas, à l'époque, on ne faisait pas... On n'avait pas on n'avait pas étudié les souffrances, comme maintenant. Même maintenant, on souffre quand même. Mais un cancer au genou... Chose étonnante, sa petite sœur est morte aussi d'un cancer au genou. C'est très curieux, c'est très curieux. Enfin, il y a des choses comme ça. Voilà, donc on peut entendre aussi encore, on n'est pas sérieux quand on a dit
ça. Voilà, on va terminer avec celle-ci. Oui. Je voudrais juste rajouter que donc bientôt en octobre, pour ceux qui n'ont pas été... Enfin, qui ont encore envie d'entendre parler d'Arthur Rimbaud, bien sûr, Patrice Saunier, qui est auteur, compositeur, interprète... à Digne depuis de nombreuses années est vraiment tout à fait passionné par les œuvres de Rimbaud. Il en est vraiment habité, on va dire. Il viendra, il sera sur notre antenne sur Fréquence Mistral 99.3 à partir du 3 octobre dans l'émission Passionnément Vôtre de 17h à 18h pour deux émissions, donc le 3 octobre et le 17 octobre. Voilà, donc...
vive Rimbaud.
Voilà, pour lui rendre hommage également. On écoute, on se quitte donc avant le journal RFI avec c'est Léo Ferré encore qui interprète Rimbaud.
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans.
Quand on a 17 ans, on se quitte là-dessus. Et merci Sophie et au mois prochain.
Oui.
Peut-être un de ces jours Léo Ferré, non?
Ah oui, bien sûr. Ah oui, j'aime beaucoup Léo Ferré. Bon. Oui, bien sûr, si c'est que... Tous les poètes.
Voilà,
sont
avec moi. Ce sera la surprise de lundi prochain au mois d'octobre.
Oui, oui.
À très bientôt à tous. Bonne journée.
Au revoir.
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche piquée d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petite et toute blanche. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse